se concentre sur le congrès, mais il y a aussi des conférences qui sont à peu près la même chose, en fait. Il y en a déjà eu une en 2010 et une en 2012. Donc, c'est-à-dire, dès Kim Jong-il, on était dans l'idée qu'il fallait à nouveau réunir le parti. Cette stratégie qui consiste à essayer de séduire la société civile, c'est-à-dire les bourgeois, puisque somme toute, les députés, ce sont tous des gens riches. Hein. Si vous regardez l'Assemblée nationale de la Corée du Nord, la plupart des députés sont des gens qui ont réussi dans les affaires. Donc, le congrès, c'est les riches, et l'armée, c'est l'armée. Donc, concilier les deux, c'est un mouvement, une tentative d'équilibre auquel Kim Jong-un se livre depuis 2010, enfin, même Kim Jong-il le faisait, depuis 2010, c'est ce qu'ils essayent de faire. Et donc, ils continuent dans cette logique. On tire une fusée, ça fait plaisir à l'armée. On donne des mesures d'ouverture économique, ça fait plaisir à la bourgeoisie. On fait ça, voilà. Il y a deux camps en Corée du Nord, deux partis, si vous voulez, ou deux tendances, et il faut en permanence alterner entre les deux pour être au milieu des deux. Voilà l'avenir de la Corée du Nord, enfin du leader de la Corée du Nord. Quant à l'autorité de Kim Jong-un, elle est incontestée puisqu'il dirige l'armée et les essais nucléaires qu'il a effectués ont véritablement assis sa légitimité militaire. Donc il s'agit plutôt de séduire la société civile et il est le chef de l'armée, c'est indubitable. Mais maintenant, il faut aussi séduire ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie montante, ceux qui se sont enrichis depuis les ouvertures du régime au début des années 2000.
Alors le dernier congrès date de 1980, c'était alors son grand-père qui gouvernait le pays. Quel est son héritage chez Kim Jong-un ? Est-ce qu'il se réclame de son grand-père ?
Oui. Alors le congrès de 1980, c'était le congrès qui a instauré la monarchie, puisque au fond, c'est le congrès de 1980 qui a permis à Kim Jong-il de devenir l'héritier de Kim Il-sung. Donc faire un nouveau congrès, c'est d'une certaine manière continuer la monarchie. Alors oui, effectivement, Kim Jong-un se réclame de son grand-père comme de son père d'ailleurs. Hein, il a érigé des statues de son père partout, là où il y avait des statues de son grand-père. Il y a une sorte de monarchie à trois maintenant qui est très surprenante. Hein, le mausolée même comprend le grand-père et le père. Et physiquement, Kim Jong-un, qui ressemble à son grand-père, joue beaucoup sur cette ressemblance. On a même prétendu qu'il avait effectué des opérations de chirurgie esthétique pour ressembler encore davantage à son grand-père. Il y a donc un véritable phénomène de monarchie en Corée du Nord. Il faut montrer qu'on est le digne héritier des deux premiers Kim.
Pourtant, le grand-père, le père et actuellement Kim Jong-un défendent des doctrines qui sont différentes.
Je ne dirais pas différentes, c'est une continuité, un progrès. La Corée du Nord est très plastique, hein, elle s'adapte aux tendances du moment. Donc le grand-père a été communiste lorsqu'il fallait l'être, puis il a rompu avec le marxisme-léninisme en adoptant une doctrine qui s'appelle le Juche, qui est toujours en vigueur actuellement, qui est en quelque sorte autosuffisance et nationalisme. Et Kim Jong-il a rajouté à cela le Songun, c'est-à-dire l'armée d'abord, privilège à l'armée. Tout ça s'articule assez bien, ce n'est plus du tout un régime socialiste ou comme on l'entendait en Union soviétique, c'est un régime nationaliste, monarchique, autoritaire, fondé sur le Juche, c'est-à-dire sur la fermeture vis-à-vis de l'étranger.
Et pourquoi Kim Jong-un se réclame de son grand-père ? On comprend qu'il veut s'installer dans une sorte de monarchie, etc., mais son grand-père était très apprécié par les Nord-Coréens ?
Oh ben, il ne faut pas croire que Kim Jong-un ne soit pas apprécié non plus. Hein. Cette population est fascinée par ses grands leaders qui sont devenus en quelque sorte l'incarnation même de la nation. Donc effectivement, ils ont gardé de très bons souvenirs de Kim Il-sung, mais ils adulent aussi Kim Jong-il, Kim Jong-un. C'est difficile de savoir dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression et donc pas de liberté de pensée ce que les Nord-Coréens pensent véritablement de leurs leaders. Ce sont presque des dieux vivants en quelque sorte. Donc on est au-delà de l'appréciation, de la non-appréciation. C'est l'amour. Quand ils meurent, ils sont désespérés. Et je crois que c'est un désespoir tout à fait honnête. Ils sont fascinés par ces leaders qui ont la totalité du pouvoir depuis 70 ans. Et plusieurs générations sont habituées à cela et ont beaucoup de mal à s'en débarrasser. On voit bien que les réfugiés du Nord, lorsqu'ils vont au Sud, continuent à vouer une sorte de culte à leur ancien leader alors qu'ils ont fui le pays. En gros, ils trouvent que les leaders sont bien et c'est que le régime qui n'est pas bon. Donc même malgré la faillite du régime, la population continue à adorer les dirigeants. Ce sont ces serviteurs qui ne sont pas bons. C'est l'éternelle théorie, le roi est bon et ses ministres sont mauvais.
En 1980, au dernier congrès, il y avait eu 118 pays qui étaient représentés. Oui. On imagine que ça va être très différent cette année.
C'est difficile à dire. Oui, le régime maintenant se méfie beaucoup de l'influence étrangère, notamment pour des raisons sanitaires. Par exemple, il y a eu des mesures très très strictes pour éviter la contagion du virus Ebola en Corée du Nord, qui a pourtant bien peu de chances de s'y répandre. Et on prétend que l'étranger est plein de miasmes, donc il y aura moins d'invités. Mais il ne faut pas se leurrer, il y aura certainement des représentants de très nombreux partis groupuscules maintenant, nostalgiques du communisme pur et dur, et on va trouver des choses surprenantes. Il est même possible qu'on invite quelques Français à ce type de congrès, parce que le régime veut garder une prétention d'internationalisme. Il est une internationale alternative, bien sûr, au libéralisme économique, mais aussi à l'international socialiste ou communiste. C'est un régime qui se veut totalement à part et qui a des liens très étroits avec de très nombreuses dictatures absolutistes, notamment en Afrique. Il y aura certainement de nombreuses délégations africaines.
Alors, la Corée du Nord, dernièrement, a fait plusieurs essais nucléaires. On a l'impression aujourd'hui que les sanctions que prend le Conseil de sécurité de l'ONU ne font pas reculer la Corée du Nord. Qu'est-ce qui pourrait lui faire peur ?
C'est très difficile à dire parce que le Nord est un régime extrêmement plastique. Toutes les sanctions sont économiques et donc pèsent très durement sur la population, mais ne touchent pas l'élite, c'est-à-dire en gros, on pourrait dire une aristocratie qui est de 10% à peu près. Donc 10% de la population garde au fond son niveau de vie et c'est les 90 autres 10% qui sont la variable d'ajustement. Donc le régime peut tenir, à part une expédition militaire dont il n'est évidemment pas question et que personne ne souhaite, on voit guère ce qui pourrait faire tomber le régime. Alors la Chine pourrait le faire éventuellement en coupant le robinet du pétrole. S'il n'y a plus d'énergie, le pays s'effondre. Mais la Chine a-t-elle intérêt à ce que la Corée du Nord s'effondre ? Fort probablement pas. La Chine a ses propres difficultés, son propre ralentissement économique. Elle ne se soucie certainement pas de créer une sorte de grande tension à sa frontière, très proche de Pékin. Donc le Nord joue là-dessus et continue à faire ce qu'il veut parce que tout le monde a intérêt à ce qu'il reste en place. C'est cynique, mais c'est la vérité.
Oui, justement, j'allais vous parler de la Chine. Pékin est le seul soutien de la Corée du Nord. Sa position a évolué un peu au fil des incartades de la Corée du Nord. Où en est-on aujourd'hui ?
Alors, son discours a beaucoup évolué. Son discours est critique, son discours est de dénonciation. Mais dans la réalité, rien n'a changé, puisqu'en fait, il continue à alimenter le pays. Ils tiennent la clé de survie du pays et ils ne font pas jouer cette clé. Donc, somme toute, ils laissent le régime en place. Mais en revanche, il y a un froid manifeste entre l'actuel dirigeant et M. Xi Jinping, notamment Kim Jong-un n'est jamais allé en Chine en tant que dirigeant suprême. Il y est allé lorsqu'il était prince héritier, mais il n'y est pas retourné depuis. Et l'exécution de son oncle en 2013 a été un signal très négatif pour la Chine, puisque son oncle était le partisan d'un rapprochement idéologique et politique de la Chine. Donc il y a une sorte de brouille. Mais au-delà de la brouille, il y a un intérêt manifeste à laisser le régime en place, regarder où il est, à deux pas de Pékin. Une guerre en Corée du Nord est intenable pour la Chine, qui a bien d'autres chats à fouetter. Donc tant que c'est possible, ils laisseront ce régime en place. Et la Corée du Nord a bien de la chance d'être si bien placée sur l'échiquier mondial que personne n'ait intérêt à sa disparition.